Morin.
Ça va bien aller?
Live.
Toujours.
En vacances.
Live. Ouais. Ça va bien aller?
Live.
Radio X.
Merci d'être là, 7h27 minutes. On est avec vous jusqu'à 10h ce matin, jusqu'à l'arrivée de Carbo qui va s'installer avec vous pour 2 heures. Juste vous dire que niveau de la circulation, le boulevard Laurier, c'est jaune. Le reste, c'est parfait. Ça va bien. Il n'y a pas de soucis sur les routes ce matin. Profitez-en, roulez à souhait. Aujourd'hui, obtenez 20 fois les points. Chez Pharmaprix, ouvrez l'appli PC Optimum. Tu magasines, tu scannes et tu obtiens une remise de 30 % en points. Conditions dans l'appli.
Jeff Caron. Jeff Caron.
Jeff Caron, comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Numéro un, merci. J'avais hâte de te parler parce que parce qu'on va se gâter. On va parler de l'événement sportif qui débute demain en France. Mais avant, est-ce que je suis le seul à trouver que depuis le 7 octobre 2023, depuis que la Palestine a attaqué certains camps en Israël, en tout cas ici au Québec, on entend beaucoup moins parler de ce qui se passe en Ukraine et en Russie?
Ben oui, puis il se passe des choses intéressantes en ce moment, parce que les Ukrainiens, ils ont développé une stratégie qui est la seule stratégie qui leur permettrait de tirer des marrons du feu, si on veut. Mm-hmm. C'est, ils ont compris, là, à l'été 2023, lorsqu'on a essayé de passer à une contre-offensive avec tous les chars d'assaut qu'on leur a envoyés, qu'ils n'allaient pas être en mesure de reprendre les territoires perdus par des voies militaires. Donc là, maintenant, la stratégie qu'ils ont développée, c'est de frapper à l'intérieur du territoire russe, donc principalement des raffineries à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi ailleurs, pour qu'il y ait des pénuries de carburant, et de sorte que la population russe se retourne lentement mais sûrement contre le régime de Vladimir Poutine. Donc, finalement, ils essaient de remporter une victoire politique à défaut de pouvoir remporter une victoire militaire. Donc, c'est ce qu'ils ont fait depuis les dernières semaines. Il y a eu beaucoup de frappes en profondeur à Moscou puis à Saint-Pétersbourg. Puis, tu sais, pour les Russes, ils ont toujours la grosse parade à Moscou sur la Place Rouge le 9 mai. Puis ça a été la parade la plus courte, je pense, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils craignaient des frappes de drones puis de missiles à longue portée.
Puis les histoires de frapper les patentes de pétrole, un, ça donne des images hallucinantes.
Ah oui.
Puis deux, j'ai l'impression que là, on vient vraiment toucher au cœur de Vladimir Poutine, c'est-à-dire le peuple, parce qu'on voit de plus en plus de vidéos, là, le peuple russe qui... Des mères de famille qui sont pas capables de se déplacer parce qu'ils n'ont pas de gaz. J'imagine qu'en Russie, là, la mission de Vladimir Poutine, on considère de plus en plus que c'est une guerre.
Là. Ben oui, là, les gens, les Russes sentent réellement la guerre. Donc, ce que les Ukrainiens font, ils essaient de s'en prendre au... Tu sais, le contrat social, c'est Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, on dit toujours que ça fait référence à la démocratie. Donc, qu'est-ce qui donne la légitimité à un régime démocratique? Ben, les gens vont voter. Puis la majorité l'emporte, puis la majorité gouverne, puis ceux qui ont perdu, ils se reprendront dans 4 ou 5 ans pour essayer de gouverner. C'est ça, la légitimité démocratique du contrat social démocratique, ça repose sur le consentement des gens par le biais des élections. Bien, évidemment, dans un régime autoritaire comme la Russie ou ailleurs, il y a des élections, mais elles ne sont pas compétitives. Mais là, il en reste pas moins que, dans l'esprit des gens, le régime en place doit être légitime. Ils doivent l'accepter pour ce qu'il est. Puis la base de la légitimité d'un régime autoritaire, c'est la capacité du régime à livrer la marchandise. Donc, laisser les gens s'enrichir, faire en sorte qu'ils vivent en sécurité. Puis, paradoxalement, de laisser les gens libres dans leur sphère privée. Donc, pas dans la sphère politique, mais dans leur sphère privée. Donc, ils sont pas, comme au Québec, par exemple, là, ils sont pas submergés par différentes réglementations puis normes, puis ils s'exposent à des tickets de 150$ s'ils mettent leur vidange au chemin à 8h moins quart au lieu de les mettre à 8h30. Là. Tu vois ce que je veux dire?
Je comprends très bien.
Donc, en attaquant l'économie russe, puis en créant un sentiment d'insécurité avec les frappes de drones, parce que ce que Zelensky et les Ukrainiens sont en train de faire, c'est d'attaquer la légitimité même du régime de Vladimir Poutine. Puis c'est ça, écoute, les gens, ce que j'ai lu, c'est qu'ils ils peuvent pas mettre plus que 20 ou 25 litres d'essence dans les stations-service parce qu'il commence à y avoir une pénurie de carburant. Donc, les gens sentent la guerre. Puis si les gens ne sont pas capables de faire des pleins d'essence à l'intérieur de la Russie, ça veut dire que la Russie n'est plus aussi capable d'exporter son pétrole à l'étranger, donc de générer des revenus pour continuer à financer la guerre. Donc, les Ukrainiens, il y a un shift, un changement dans la stratégie ukrainienne. C'est plus, ils ne recherchent plus une victoire militaire qui est impossible de toute façon de leur côté. Ce qu'ils cherchent, c'est d'obtenir une victoire politique, donc faire en sorte de forcer Vladimir Poutine à entrer plus sérieusement dans des négociations de paix. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'il va réagir, sachant que son régime, sa légitimité commence à s'effriter? Est-ce qu'il va s'engager dans une fuite vers l'avant, de redoubler d'efforts en Ukraine en recourant des frappes de missiles toujours
de plus en plus... C'est un peu l'impression qu'on a eue cette semaine là, en attaquant directement Kiev. Là. Ça faisait quand même un certain temps, mais là, on a attaqué, puis beaucoup, on a attaqué Kiev. Là.
Oui, c'est ça. Donc, on a l'impression qu'il redouble d'efforts dans l'espoir de faire plier la résistance ukrainienne. Puis tu sais, je te dis ça parce que j'étais à Varsovie hier, puis dans la file d'attente aux douanes, il y avait un gars avec un pack-sac militaire, avec un passeport brésilien, puis il tenait dans sa main un document, puis ça s'est adonné que j'étais capable de lire ce qui était écrit, puis le type s'engageait dans la Légion des volontaires étrangers. Le gars entrait en Pologne pour ensuite passer par l'Ukraine pour s'engager dans l'armée ukrainienne, puis j'ai discuté avec lui, puis j'ai demandé c'est quoi ses motivations, puis il m'a dit ben c'était principalement l'argent. Parce que là, l'Ukraine s'est fait donner par l'Union européenne un pactole. Et puis le type me disait qu'elle allait gagner à peu près 6-7 000 euros par mois.
Ouais.
OK.
Mais tu vois, ils sont plus capables de recruter des soldats ukrainiens en Ukraine. Donc, pour pouvoir continuer militairement la résistance aux Russes, ils doivent donner des pactoles à des étrangers qui vont aller comme le type, là, peut-être se faire tuer. Là. Donc, les Ukrainiens sont, sur le plan militaire, sur le plan des ressources humaines, ils sont probablement dans leur dernier retranchement, donc leur dernière possibilité de pouvoir maintenir les lignes. En fait, ils ne maintiennent pas les lignes parce qu'ils continuent malgré tout à perdre du terrain. C'est de recourir à des combattants étrangers. Donc, Vladimir Poutine le sait très bien. Donc, il redouble d'efforts dans l'espoir de pouvoir faire plier l'Ukraine avant que sa légitimité s'effrite aux yeux du peuple russe.
Ça a été annoncé hier que Moscou avait presque pris Konstantinovka, qui est une des régions dans le Donbass. Si jamais les Russes réussissent à s'emparer du Donbass et à le maintenir dans le temps, à quoi on peut s'attendre par la suite?
Ben, ça va être la fin des combats pour les Russes, parce que Vladimir Poutine a déjà annoncé en 2022 qu'il reconnaissait l'annexion de ces deux territoires-là, de Luhansk et de Donetsk, comme faisant partie du territoire russe. Donc, l'entièreté de ces oblasts-là, à ses yeux, doivent appartenir à la Russie. Donc, dans un cas, il a conquéri presque à 100 %. Dans l'autre cas, à peu près à 70 %. Donc, Konstantinivka, c'est un nœud de communication. La ville semble être encerclée. Donc, si la ville tombe, ben après ça, c'est la grande steppe ukrainienne. Puis les Russes vont pouvoir progresser vers les derniers bastions ukrainiens de la région, donc Kramatorsk, Sloviansk. Et si ces deux villes-là tombent, ben là, il va avoir réussi à atteindre ses objectifs de février 2022. Puis là, il va pouvoir dire, ben voilà, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Maintenant, la guerre peut cesser.
On a l'impression que c'est à portée de main. Est-ce que ça pourrait se produire bientôt?
Ben, Konstantinivka, probablement au cours des prochaines semaines, comme la ville de Pokrovsk. Mais après ça, le problème, c'est que pour l'armée russe, pour pouvoir progresser dans la steppe, ils vont devoir affronter des hordes de drones ukrainiens qui vont frapper à peu près tout ce qui bouge. Fait que ça sera pas nécessairement facile. Ça peut prendre une autre année et demie avant qu'ils réussissent là, à atteindre les faubourgs de ces villes-là. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que économiquement parlant, puis sur le plan de sa légitimité politique, est-ce que Vladimir Poutine a encore à sa disposition un an ou un an et demi pour atteindre ses objectifs militaires?
Pourquoi les Européens sont cocus, hein?
Écoute, c'est... les pauvres, ils dépensent des milliards et des milliards de dollars pour leur soutien à l'Ukraine, puis là, le tribunal allemand a mis en accusation l'Ukraine pour la destruction du pipeline Nord Stream 2. Alors qu'on soupçonnait que c'était peut-être les Russes qui avaient fait de l'auto-sabotage pour réaliser que c'était fort probablement les Ukrainiens qui avaient fait le coup. Donc, ils ont détruit une infrastructure qui, lorsqu'il y aura une paix retrouvée avec la Russie, c'est inévitable, ben, l'infrastructure pourra plus être remise en opération parce qu'elle est détruite. Donc, ça va forcer les Européens à acheter du gaz et du pétrole ailleurs, qui risque de leur coûter plus cher que celui qui achetait de la Russie. Puis d'autre part, maintenant, Trump, il continue à avoir des équipements militaires américains transférés en Ukraine, mais ce n'est plus des équipements qui sont donnés. Donc, les Européens achètent à coups de milliards de dollars de l'équipement militaire aux Américains, qui donnent ensuite aux Ukrainiens. Puis là, on découvrait, c'est le secrétaire général de l'OTAN qui disait que tous ces achats d'équipements militaires-là, européens, d'Europe aux États-Unis, ça crée aux États-Unis 200 000 jobs. Donc, tu sais, pour les États-Unis, pour Donald Trump, là, il est crampé parce que la guerre, pour lui, c'est une bonne business. Ça génère 200 000 emplois aux États-Unis. Puis les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils en retirent au final? Ils se font saboter leurs infrastructures par les gens qui aident à coups de milliards de dollars. Tu sais, ça fait une espèce de relation, justement, de cocu.
Ben oui, de cocu. Puis parlons-en des Américains, parce que hier, Zelensky est sorti de son Irish pub, là. Il est allé aider Vitaly, parce que Vitaly était pas mal tout seul à faire face aux médias en Ukraine. Puis il est allé demander. Puis ça, je te pose la question, parce que je sais pas si les Américains ont déjà autorisé ça à quelconque pays, là. Mais il a demandé aux Américains si eux autres même pouvaient bâtir des missiles patriotes. Je trouve ça... je sais pas jusqu'à quel point les Américains sont enclins à donner tous leurs secrets à un pays comme l'Ukraine pour qu'ils bâtissent eux-mêmes des missiles.
Écoute, c'est une bonne question. Il y a des missiles patriotes en Ukraine. Il y en a en Corée du Sud. Il y en a un peu partout dans le monde. Donc, c'est sûr qu'un pays comme ça a les capacités, les moyens de pouvoir faire de l'espionnage industriel puis de comprendre comment le système de missiles fonctionne et d'en créer un qui est similaire. Mais ça serait extrêmement surpris que les Américains donnent le droit à un autre pays de construire des missiles patriotes sur un autre territoire que le territoire américain. Donc, dans le meilleur des cas, ce que les Ukrainiens vont faire, c'est par la voie de l'espionnage industriel, créer un système antimissile plus ou moins similaire au système de missiles patriotes. Puis ils en ont les capacités. Financièrement parlant, les Européens sont prêts à leur donner tout ce qu'ils veulent. Donc, money is not a problem. Puis ils ont quand même montré au cours des 4 dernières années et demie que sur le plan du développement technologique, ils ont fait preuve d'innovation. Ils ont réussi à fabriquer eux-mêmes des missiles à moyenne portée. C'est probablement l'armée européenne, c'est probablement en ce moment en Europe la meilleure armée européenne. Au cours des dernières semaines, il y a eu des simulations de combat entre l'armée ukrainienne puis des armées européennes. Puis je me souviens pas, je pense que c'est l'armée française. Au cours des simulations, en l'espace de 15 ou de 20 minutes, ils se sont fait détruire entièrement 2 régiments. Par des frappes de drones fictives, évidemment, là. Donc, ils ont développé des capacités techniques puis des capacités militaires qui c'est assez impressionnant, là. Donc ils auraient très bien aussi la capacité de développer des missiles similaires au système Patriot.
Puis pendant ce temps-là, tant qu'à parler des Américains, ça va bien dans le détroit en Iran, là. C'est, je veux dire, tout est réglé, hein?
On verra. Écoute, ça, c'est, j'ai quand même trouvé drôle. C'est Hunter Biden qui a écrit sur Twitter, sur X, hier ou avant-hier. Il dit, on devrait vraiment, là, mais réellement, cette année, donner le prix Nobel de la paix à Donald Trump parce que ça fait 36 fois qu'il annonce que le conflit avec l'Iran est terminé. Donc, écoute, je pense qu'on va continuer.
Hunter, quand il est à jeun, il est capable d'avoir de l'esprit.
Oui, non, écoute, je dois lui donner, était vraiment bonne. Mais tu vois, c'est Trump, il ne peut pas perdre la face. Alors que, regarde, on en a discuté la semaine dernière, il s'est fait embarquer dans une patente à gosse, un conflit qui maintenant s'est retourné contre lui, puis évidemment, il ne veut pas perdre la face. Donc, il signe une deal, les Iraniens résistent, il envoie une coupe de missiles pour démontrer à son opinion publique qui est toujours le maître de la situation. Donc, ça va continuer encore au cours des prochaines semaines, peut-être même des prochains mois. Mais je pense qu'on peut s'entendre que, tu sais, le gros conflit là, qu'on a vécu entre la fin février jusqu'au mois d'avril, c'est dans la région, c'est essentiellement terminé pour l'instant. Là,
on va avoir une discussion de vendredi matin, pas mal, Jeff. D'abord, je suis curieux, je vais te poser la question parce que je sais que dans le coin où tu te trouves, les pays sont un peu moins présents. Mais est-ce que ça jase un peu de la Coupe du monde dans ton coin de pays?
Oui. Ben écoute, quand j'étais au Kazakhstan au mois de juin, lorsque l'équipe d'Ouzbékistan jouait, là, t'avais vraiment là, toutes les républiques d'Asie centrale, les gens prenaient pour l'Ouzbékistan. Là, maintenant, je suis en Arménie. L'Arménie, c'est pas qualifié. Mm-hmm. Mais tu vois, un peu partout dans les bars, les pubs, il y a des publicités, les drapeaux. Donc, tous les restaurants, les pubs organisent des soirées pour la Coupe du monde. Le problème, c'est que la plupart des matchs ont lieu très, très, très tard le soir ou au milieu de la nuit. Parce que moi, j'ai 8 heures de plus que vous autres.
Oui.
Donc, évidemment, faites le calcul. Quand vous avez un match à 4 heures l'après-midi, imaginez-vous simplement à quelle heure le match a lieu chez moi. Mais j'étais aussi à Londres la semaine dernière. Puis on s'entend que j'étais là une journée où l'équipe anglaise jouait. Donc à 3-4 heures du matin, dans la rue où j'étais, disons que les partisans londoniens m'ont réveillé.
Ouais.
Parce que leur équipe avait remporté la victoire. Là.
Absolument. Mais ils ont l'impression, en plus, ils ont laissé une coupe de bons gars au pays. Eux autres sont aussi prêts de gagner parce que sinon, le sélectionneur va possiblement passer au cash, mais qu'il rentre sur son île.
Ils ont quand même été chanceux dans leur dernier match. Ils ont remporté ça 2-1, mais ont marqué. Ils perdaient jusqu'à la 75e minute. C'est Harry Kane qui était capable de scorer deux buts presque coup sur coup. Donc, ils ont eu chaud, là.
Est-ce que c'est encore en importance, quand on parle de géopolitique, la Coupe du monde de soccer, tu sais, des pays qui ont arrêté, qui ont fait des trêves de guerre pendant la Coupe du monde dans l'histoire, on en a vu un paquet. Ça semble pas être le cas cette année. Puis, tu sais, le fait qu'on soit aux États-Unis aussi, la FIFA, au courant des dernières années, ça a été la Russie, ça a été le Qatar, tu sais, ils ont été dans des drôles de places. L'Arabie saoudite, quand même, dans 8 ans. Le fait que ce soit aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils sont comme revenus à des bases un peu plus solides, là.
Oh. Est-ce que Jeff a disparu?
Jeff. Moi, j'ai rien bougé de mon côté.
Les dieux du vélo voulaient pas que ça arrive.
Ouais, évidemment. Ça, c'est les dieux de la radio, j'ai l'impression, plus que les dieux du vélo qui voulaient pas que ça arrive. Jeff, ce serait bien le fun que tu recommences ça. Je vais juste essayer d'y écrire ici. Si tu étais capable de me faire la météo, Max, genre, quelque chose.
Ben oui. Ben présentement, il fait une température quelconque.
Okay, c'est beau.
23 degrés, humidex 31 présentement, je l'ai. On est encore en avertissement de chaleur aujourd'hui. Un
bravo.
Petit 30 degrés, ressenti peut-être 36, pourquoi pas?
Il y a une panne de courant, donc il ne pourra, pourra plus nous reparler.
Mais tu parlais de l'Arabie saoudite, de plus en plus, il va y avoir des sports de haute envergure dans les prochaines années. C'est fou de voir comment Riyad
développe.
Mais c'est beau, là. Il n'y a pas la F1 ou la Formule E qui est allée l'année passée.
La F1 est dans ce secteur-là aussi. Ils ont des courses de vélo.
Je peux parler de lutte maintenant, Dan?
Il y a de la lutte.
La lutte est supposée y aller l'hiver prochain là, pour WrestleMania.
Mais tu sais, pour la Coupe du monde, ils ont fait ça. En fait, la Coupe du monde 2018, c'est la Russie qui ont tout fait pour que la FIFA leur accorde. Ils ont donné de l'argent, il y a eu des histoires de corruption. On a eu la même chose pour la Coupe du monde d'il y a 4 ans, qui était au Qatar quand même. Là,
ouais. C'est le pétrole.
C'est le pétrole, c'est pas des pays qui sont naturellement des pays dans lesquels tu veux aller, dans lesquels tu veux t'associer. Puis là, c'est eux autres qui levaient la main et qui disaient « On veut la Coupe du monde, on veut la Coupe du monde. »
Ils sont prêts à payer pour.
Exactement. Fait que là, on a changé un peu ça. On y va à 48 clubs, donc 16 clubs de plus. Ça te prend des stades de plus. Tu sais, là, ça devient compliqué d'organiser la Coupe du monde. Puis la FIFA voulait absolument aller aux États-Unis. Là, c'est pas les États-Unis qui ont levé la main pour dire « On la veut ». C'est la FIFA qui a dit aux Américains « On veut aller aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026. On va y aller avec 48 clubs. Les stades, vous en avez suffisamment. » Finalement, pour une question financière, on a décidé d'embarquer deux équipes supplémentaires sur le Canada et le Mexique pour présenter la Coupe du Monde. C'est correct, c'est la FIFA qui l'a demandé.
Y a-t-il un symbole aussi au travers de tout ça, vu que tu es en Amérique du Nord, d'amener comme toute la gang?
Ben, je pense que c'est vraiment pour diviser les coups parce que tu as 48 matchs. T'sais, aux États-Unis, ce qu'on racontait, c'est le gars, le responsable de la sécurité à Dallas. Lui, il dit, Dallas a déjà reçu le Super Bowl. Là.
Oui.
Puis lui, il dit, j'ai un Super Bowl aux trois jours. Ce que ça nous coûte en argent à la ville de Dallas, c'est l'équivalent d'un Super Bowl pour trois jours. Donc, c'est énorme, tout l'argent qu'il peut recevoir. Donc, Jeff ne sera pas là, ne sera pas de retour. C'est énorme, toute la cash qu'ils peuvent mettre là-dedans. Puis, écoute, on comprend que tu veux partager les frais avec d'autres. Mais ouais. Là, tu vois, la prochaine Coupe du Monde, c'est Maroc, Espagne, Portugal. Donc, on y va encore à trois équipes, à trois pays. Puis, c'est vraiment à cause des stades. Mm. Tu as besoin d'une gestion de stades. Tu as besoin de 12 gros stades pour être capable d'amener tout le monde. Donc, on y va encore à trois pays. Mais 4 ans plus tard, donc dans 8 ans, c'est en Arabie Saoudite. Ils n'ont pas les infrastructures un matin là, pour recevoir ça.
Oh, mais
puis, ils
ne
feront pas ça avec d'autres pays. Mais ils vont tout bâtir.
Ouais. C'est fou ce qu'ils sont capables de faire.
Ils vont tout bâtir des stades flambant neufs pour accueillir la Coupe du monde de soccer. Il va y avoir quoi dans ces stades-là après? J'en ai aucune christie d'idée. Ils ont des ligues. Là. Ils en ont des ligues locales. Là. Je sais que le soccer est de plus en plus populaire puis prend de plus en plus de place en Arabie Saoudite. Mais c'est quand même hallucinant. Là. Eux autres, ils vont tout rebâtir tout seuls. Ce que les États-Unis ont été obligés de faire avec le Canada et le Mexique, ce que l'Espagne va faire en aide avec le Portugal et le Maroc, l'Arabie Saoudite va faire ça tout seul.
C'est stupide. Honnêtement, ils vont construire combien de stades puis combien vont être utilisés par la suite?
Ben, en fait, je pense que c'est quelque chose comme il y en rénove 8 puis en bâtisse 4. Là.
Wow. Man.
C'est complètement fou tout l'argent qu'ils mettent là-dedans. Puis eux autres, c'est comme une façon d'être dans la même gang que les autres. Là.
Ouais. Ouais, ils s'occidentalisent.
Ouais, exactement. Puis l'autre phénomène duquel je voulais parler avec Jean-François Caron, c'est le Tour de France, ça commence demain.
Oui, c'est ton excitation, c'est ton moment de l'été, ouais. Ça, Dan. Tellement désolé.
Puis tu vois, j'ai pas pu le faire à cause d'une panne de courant. Je vous le dis, c'est plus les dieux de la radio.
Oui, c'est vraiment
que
un complot.
Les dieux de quoi que ce soit, là, c'était hors de question qu'on me laisse parler de ça. Mais quand même, ça va être un bon tour. Je veux vous le cibler sur 2-3 patentes. Est-ce que Tadej va être capable de reconduire son Tour de France? Est-ce que Jonas va être capable de gagner, d'enchaîner Tour d'Italie et Tour de France? Permettez-moi d'en douter. Par contre, je veux vous allumer sur Derek G, le Canadien, qui est inscrit et qui sera le principal lieutenant de Juan Ayuso, l'Espagnol, qui pourrait techniquement aller chercher un podium. Mais Ayuso, si ça va mal... Là, c'est le genre à prendre son bicycle, le tirer en bas de la montagne puis dire « c'est fini, on se retrouve au départ de la prochaine course
». Fait
que ça se pourrait que Derek G devienne le leader de l'équipe Little Trek. Ça pourrait être intéressant à suivre tout ça, le Tour de France qui débute demain du côté... Hey, c'est la première fois de l'histoire que c'est pas les Français qui sont les plus représentés au Tour de France. Il y a 30 cyclistes français, il y en a 31 belges. Pour l'anecdote, je sais que tout le monde s'entorche comme dans l'an 40.
Mais tu peux pas dire à un Belge qui est français, par exemple.
Non.
Fait que c'est important de le mentionner.
C'est très important de le mentionner. Surtout que la majorité des Belges qui font du vélo sont beaucoup plus flamands que francophones. Voilà, 7h49. Merci, Jean-François. Désolé pour la panne de courant. Possiblement que d'ici la fin de l'été, on va être capable d'avoir une vraie chronique avec Jeff Caron où on n'a pas de problème parce qu'on a eu un autre la semaine passée. Visiblement, les temps sont difficiles en Europe avec l'Internet. 7h49, on vient.
Morais. T'as quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.